Bonjour, bonjour Yves, au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, plus ou moins pertinente, les petites images qui bougent encore au 21e siècle. Et ben oui, elles bougent encore un peu partout sur tous les écrans. Ce jour dans 24 notes secondes, ben là il faudrait presque une journée, voire une vie, pour raconter la carrière, eh bien, nous n'aurons que 30 minutes pour évoquer celle de Patrick Devers, alias Patrick Bourdeau, un acteur français né le 26 janvier 1947 et mort le 16 juillet 1982, c'est-à-dire à l'âge de 35 ans et de sa propre volonté. Il n'empêche que dans cet court intervalle de temps, eh bien, Patrick Devers aura joué dans une quarantaine de longs métrages. Il aura incarné des dizaines de personnages à la télévision, au théâtre, au cinéma. Il faut dire, et on va le faire court pour laisser place à la musique, qu'il était dans une famille d'artistes qu'on appelait les Petits Morin, du nom de la comédienne Mado Morin, qui en était entre guillemets la mère, car les histoires de paternité et de maternité étaient assez complètes dans cette famille, et ça fait partie d'ailleurs des déchirures intimes qui poursuivirent Patrick Devers jusqu'à son décès. Et les Petits Morin, ben, on les voyait un peu partout, au théâtre, à la télévision, à la radio, et du coup, eh bien, le petit Patrick Devers fut très tôt, qui sur les planches, qui devant les caméras ou les micros, et jusque dans les années 60, eh bien, on ne le distingua pas, d'ailleurs ce n'est que plus tard qu'il prendra le nom de Patrick Devers. Ensuite, autre aventure que là encore je suis obligé de condenser, eh bien Patrick Devers sera de l'aventure du Café de la Gare des années 68 avec Coluche et bien d'autres, dont certains sont morts, tandis que d'autres sont devenus de gros bourgeois, il faut bien le dire. Mais Patrick Devers fut de ce bouillonnement intellectuel, politique, social, sexuel, tout ce que vous voulez, des années 60. Mais pour faire court et en venir à la musique, c'est en 1974 qu'aux côtés de deux autres acteurs, pour lesquels ce sera aussi, sinon le rôle de leur vie, en tout cas l'occasion d'une révélation, eh bien Patrick Devers se retrouvera au générique d'un film de Bertrand Blier qui n'est rien d'autre, entre guillemets rien d'autre, que le fils de Bernard Blier, un acteur emblématique du cinéma français des années 30, jusqu'à presque les années 90, eh bien en 1972, Bertrand Blier a l'occasion d'adapter au cinéma un roman qu'il avait publié quelques années plus tôt. Ce roman, il s'appelle Les Valseuses. Le film, il s'appelle pareil. Aux côtés de Patrick Devers, il y a Gérard Depardieu et Miu Miu. Maintenant, ça n'a l'air de rien. À l'époque, ils étaient complètement inconnus. Ils ne vont pas le rester longtemps. On écoute tout de suite un extrait de cette bande originale, Les Valseuses, dans 24 notes secondes.
Thank you.
La musique et le violon de Stéphane Grappelli pour un extrait de la bande originale des Valseuses, un film de Bertrand Blier tourné en 1974 d'après son roman paru 2 ans plus tôt. Alors les Valseuses, eh bien c'est, on appellerait ça une dérive sanglante maintenant, mais en fait à l'époque nous ne sommes, c'est un monde tellement, j'en bafouille, c'est un monde tellement étranger qu'il est même difficile de l'évoquer avec le recul. Donc là, soi-disant dérive sanglante de Jean-Claude alias Gérard Depardieu et de Pierrot alias Patrick Devers, auquel se joint Marie-Ange alias Miu Miu. Sur le chemin, eh bien, il rencontre entre autres Brigitte Fosset, Isabelle Huppert et leur Jeanne Moreau, avec laquelle ils ont des scènes absolument mémorables. Un film difficilement classable, un film provocateur, un film violent, un film dérangeant et qui fit 3 millions d'entrées l'année de sa sortie, autant dire un énorme succès commercial, là où ça aurait pu être un bide tout à fait complet s'agissant d'un film aussi novateur, aussi provocateur, avec des acteurs complètement inconnus mais qui ne le restèrent pas longtemps. En plus, comme si ça ne suffisait pas, Patrick Devers et Miu Miu eurent une idylle, comme l'on dit là encore dans les tabloïds, pendant le tournage du film, de laquelle naquit une petite fille appelée Angèle, dont je ne sais pas si elle est, j'espère, elle est encore parmi nous, puisqu'elle est née le 13 août 1960. 74, ce qui n'est pas si loin. Et en quelques secondes ou presque, en tout cas en un an et 3 millions d'entrées, eh bien Patrick Devers devint un acteur, comme l'on dit là encore aujourd'hui, bankable, c'est-à-dire pouvant à peu près tout tourner, sauf, c'est bien que c'est que derrière l'acteur Patrick Devers, il y avait l'homme Patrick Devers, et l'homme Patrick Devers apparemment était très compliqué, les relations sur les tournages et en dehors des plateaux étaient parfois assez difficiles. Un homme, évidemment il est entre guillemets facile de le dire après son suicide, mais qui cherchait une forme d'autodestruction qui n'était pas forcément si facile à vivre pour ses partenaires. Ça ne l'empêcha pas, l'année qui suivit Les Valseuses, eh bien, de se retrouver dans une grosse production assez classique, il faut bien le dire, Adieu Poulet, un film de Pierre Granier-Defer avec un scénario et des dialogues de Francis Weber, d'après un roman de Raph Valette, qui était un romancier assez connu de ces années-là, une histoire qui se déroule à Rouen pendant les élections législatives avec des politiques et évidemment des collusions et aussi des flics intègres, et oui, il y en a. Et dans les rôles principaux, on retrouvait, c'était vraiment un choc de génération assez conséquent, Lino Ventura et donc Patrick Devers avec à leur côté tout ce qui faisait la richesse du cinéma français, c'est-à-dire des seconds rôles solides, Victor Lanoux, Julien Guillaumard, Françoise Brion, Claude Rich, que sais-je encore. Ma foi, le résultat a été assez intéressant, plutôt bien fait, même si relativement classique. Et la musique de ce film était signée de celui qui, à l'époque, signait au moins 50% des musiques de films. Il avait été révélé quelques années auparavant avec la partition de des Choses de la vie de Claude Sauté. C'est Philippe Sard duquel il s'agit. Et on écoute un extrait de cette bande originale, Adieu Poulet, dans 24 notes secondes. Thank you. La partition nonchalante et jazzy de Philippe Sartre pour Adieu Poulet, un film de Pierre Granier-Defer tourné en 1975 avec Patrick Devers dans l'un des rôles principaux. Patrick Devers donc, qui se trouvait dans des grosses productions mais aussi dans des films peut-être plus personnels. On le vit cette même année, 1975, dans La meilleure façon de marcher de Claude Miller et aussi dans La marche triomphale de Marco Bellocchio. On le vit ensuite, et entre autres, hein, c'est vraiment pour vous remémorer un peu les réalisateurs et l'ambiance de cette époque des années 80, donc post-68 Hard et encore très politisé. On le vit notamment en 1976 dans Le juge Fayard, dit Le shérif, un film d'Yves Boisset, qui était la reconstitution, bien sûr, mais d'une histoire vraie, en l'espèce celle de l'assassinat du juge François Renaud, survenu en juillet 1975. Visiblement, l'homme dérangeait. En 1977, eh bien, Patrick Devers et Gérard Depardieu retrouvèrent Bertrand Blier devant la caméra. Il faut dire que depuis Les Valseuses, ça faisait 3 ans seulement, mais depuis Les Valseuses, les carrières respectives de Depardieu et de Devers avaient connu des fortunes diverses et que, d'une certaine manière, deux hommes qui étaient un peu des alter ego, même si très différents à tout point de vue, étaient aussi devenus des compétiteurs, en tout cas vu depuis Patrick Devers, qui parfois jalousait les réussites de Depardieu, créant un climat assez particulier. Et donc, malgré tout, en 77, Bertrand Blier choisit de les réunir. Alors, c'était pas pour Les Valseuses 2, ça s'appelait Préparez vos mouchoirs, et l'histoire était tout à fait différente, même s'il y avait là encore le rapport entre deux personnages masculins, Raoul Depardieu et Stéphane Devers. Et là encore, une fille, évidemment, il y a toujours une fille. Et en l'espèce, il s'agissait de Carole Laure, qui avait connu un grand succès dans les films de Gilles Carle, sauf de ma part son mari, et qui donc là trouvait un grand rôle dans le cinéma français, donc une histoire assez provocatrice là encore, quand je vous dirais qu'à la fin du film, Carole Laure, son personnage, abandonne les deux garçons pour se faire mettre enceinte par un adolescent de 13 ans, ben, vous me direz que peut-être aujourd'hui, ce serait un peu difficile de faire passer ce genre de choses au cinéma. Mais en 78, comme disait l'autre, ça passait. La bande originale de ce film, elle est signée de Georges Delerue, rien moins. Ah, j'ai oublié de vous préciser que là encore, ça paraît dans une autre dimension. En 1979, ce film, pourtant légèrement provocateur, obtint, figurez-vous, l'Oscar du meilleur film étranger. Alors que maintenant, les Oscars de meilleur film étranger, c'est que des trucs un peu lénifiants, voire gnangnans, hein, soyons clairs, en tout cas qui ne font pas de vagues. En 1979, on pouvait donner l'Oscar du meilleur film étranger à un film dans lequel un adolescent de 13 ans mettait enceinte une femme de 30 ans âgée de plus que lui. Voilà, c'est dit. Georges Delerue pour la bande originale. Préparez vos mouchoirs dans 24 notes secondes. Du Georges Delerue pur sûr, qu'il n'y a pas, comme tout à l'heure, c'était vraiment du Philippe Sard, années 70. Là, c'est du Georges Delerue, année 1980, pour un extrait de la bande originale de Préparez vos mouchoirs, un film de Bertrand Blier avec Patrick Devers, notre presque sombre héros, anti-héros de ce jour. Patrick Devers, donc, qui en 1979 eh bien, se trouva cette fois devant les caméras de Jean-Jacques Haneau. Alors Jean-Jacques Haneau, qui lui aussi avait remporté quelques années plus tôt l'Oscar du meilleur film étranger pour un film qui s'appelait tantôt Noirs et Blancs en couleur, tantôt La Victoire en chantant. Et en 1979, pour Coup de tête, eh bien, il bénéficia d'un scénario de Francis Weber pour un film qui était, on va dire, une satire du monde du football. Et quand je dis satire, eh bien c'est un petit mot, à mon avis. C'était une charge absolument magistrale contre le sport. En tout cas, ça s'appelle un sport du football. On y voyait un personnage donc interprété par Patrick Devers, et donc, puisqu'il s'agissait d'un scénario de Francis Weber, nommé François Perrin. Vous savez que François Perrin, c'est souvent le nom des héros des films de Francis Devers, qui était un petit joueur dans une équipe de l'AS Trinquant, Trinquant étant à mi-chemin entre Auxerre et Le Havre, ou quelque chose comme ça, qui, pour des raisons assez complexes, se retrouvait en prison à la place d'un autre, mais sortait de prison pour retrouver un poste dans l'équipe locale. Il marquait évidemment des buts, et du coup, de prisonnier honni, il devenait star en quelques secondes, et il en profitait pour se venger de tous ceux qu'il avait mis en prison, ce qui était quand même assez jouissif. Quand je vous aurais dit que le patron du club était en même temps le président-directeur général de l'usine, ou principal employeur du club dans lequel se passait le film, ben vous verrez des collusions qui étaient assez magistralement mises en scène par Francis Weber. Bon, et pour tout le dire, une charge anti-footballistique, puisque le film s'est appelé, entre autres, avant de s'appeler Coup de tête, ah ben je ne l'avais pas dit encore, avant de s'appeler Coup de tête, le film s'est appelé Un délicieux parfum. Parfum de hareng, un type sans importance et surtout le bourrin. Et effectivement, le bourrin, c'est un peu l'impression que donnaient les personnages à la fois sur le terrain et dans les tribunes, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je dois le dire, je trouve ça assez jouissif. Et Coup de tête, qui fut un insuccès notoire de Jean-Jacques Haneau, qui n'était pas encore le réalisateur de L'Ours, 7 ans au Tibet, que sais-je encore. Eh bien, c'est un succès et tout à fait immérité, mais bien à l'aune de la religion nationale que le sport, et notamment le football, est devenu dans un monde qui n'a, avec les années 80 que j'évoque, absolument plus rien à voir, que c'est comme si je parlais du Moyen-Âge ou du 18e siècle. La musique du film a été signée, là encore, on est dans le Moyen-Âge, de Pierre Bachelet, et forcément, vous allez la reconnaître dans 24 notes secondes. Thank you. Bah, on laisse les petits bouts de synthé qui restaient. Un extrait de la bande originale de Coup de tête, un film de Jean-Jacques Hano tourné en 1979. Une musique de Pierre Bachelet qui a servi à beaucoup d'autres choses que la musique du film Coup de tête depuis. Et avec Patrick Devers dans le rôle d'un anti-héron. Alors j'ai oublié de vous le préciser, je m'en voudrais de ne pas le faire. Hein, que le rôle du patron du club, qui était en même temps le président directeur général de l'usine qui employait la majorité des joueurs et des supporters, puisque là on est quand même dans... je dirais, du football amateur, ou soi-disant tel, eh bien, le patron, c'était ce cher Jean Bouise, qui fut l'égérie, si on peut dire, de Luc Besson, qui fut un des grands acteurs des années 70-80. À côté de lui, il y en avait bien d'autres. Mais hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, ce n'est pas d'eux dont on parlait aujourd'hui. On parlait de la douloureuse vie et carrière de Patrick Devers, qui, quand on lit sa biographie, enfin, quand on la parcourt, on s'étonne que, malgré une souffrance qui semblait être de chaque instant, une violence, une agressivité qui semblait être de chaque minute, eh bien, l'homme parvint à tourner des films, ce qui veut dire à la fois qu'il pouvait les tourner, mais aussi, soyons justes, qu'il trouvait des gens, comment dire, capables de le supporter le temps d'un tournage. Et ma foi, ces gens, ben, c'était pas n'importe qui, puisque après Coup de tête en 1979, on le vit dans Série noire d'Alain Corneau, qui était là encore un film assez difficile. Une histoire dans laquelle il s'engageait à fond avec Marie Trintignant et Myriam Boyer à ses côtés. En 1980, on le vit, entre autres, hein, dans Un mauvais fils de Claude Sauté. Et puis, en 1980, pour la dernière fois, eh bien, elle retrouva Bertrand Blier pour le rôle principal de beau-père. Là encore, un sujet légèrement polémique où on voyait, comme le titre l'indique, eh bien, un papa tombé amoureux de sa belle-fille. Ma foi, là encore, je ne sais pas si ça passerait aujourd'hui. Ben non, ça ne passerait plus aujourd'hui. Et on va se quitter pour deux choses. D'abord avec un film, la musique d'un film d'Henri Verneuil, tourné en 1982. Ça s'appelle 1000 milliards de dollars. Et c'est 1000 milliards de dollars, c'est le chiffre d'affaires des plus grandes multinationales dans les années 80. Je suppose qu'aujourd'hui, il faudrait multiplier ce chiffre peut-être par 100 ou par 1000, on ne sait pas trop. En tout cas, je dirais, l'histoire n'a rien perdu de son acuité sur la mainmise des multinationales sur le politique. Alors, à l'époque, il y avait encore du politique. Je dirais maintenant, la mainmise des multinationales sur ce qui reste du politique qui passe à la télévision. Et évidemment, Patrick Devers jouait le rôle d'un journaliste courageux qui révélait la vérité, ce qui ne serait guère plus possible maintenant dans une presse qui est quand même largement tenu par des milliardaires, il faut bien l'avouer, sans concession. Aux côtés de Patrick Devers, il y avait Caroline Cellier, Annie Dupéret, Jeanne Moreau, etc. Donc que du bon monde. Alors c'était Henri Verneuil, du coup, du cinéma assez mainstream, mais je l'ai dit, Patrick Devers aura passé toute sa carrière, ou presque, à aller d'un cinéma mainstream à des films, entre guillemets, hein, beaucoup plus exigeants, puisque 1000 milliards de dollars, je suis sûr, gagnerait encore à être revu. Ensuite, eh bien, Patrick Devers tourna encore un film, ça s'appelle Le Paradis pour tous, c'était vraiment l'antiphrase possible, et puis il s'engagea sur la préparation du tournage d'Edith et Marcel, un film que Claude Lelouch devait consacrer à l'idylle entre Edith Piaf et Marcel Cerdan. Le matin du 16 juillet 1982, il fit des bouts d'essai avec Claude Lelouch et Evelyne Bouix, qui devait être sa partenaire dans le rôle d'Edith Piaf. Et l'après-midi du 16 juillet 1982, il demanda à l'acteur Charles Gérard, un grand fidèle de Claude Lelouch, de le reconduire chez lui. Et vers 15h, eh bien, il mit fin à ses jours en se tirant une balle dans la bouche devant le miroir avec une carabine 22 long rifle que Coluche lui avait offert des années auparavant. Ainsi se terminèrent une carrière des plus brillantes et une vie des plus tourmentées. Alors, selon Patrick, dans 24 notes secondes. Thank you. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.